Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment le Maroc contribue-t-il à l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique? Nous en parlons dans Coémergence. À l'occasion de la 16e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture au Maroc qui se clôture ce week-end à Meknès, nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Raja Chafil, elle est la directrice générale du Centre 4C Maroc. Il s'agit du Centre de compétences changement climatique du Maroc qui développe plusieurs activités sur le continent. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et dans le Zoom Express, nous retrouvons notre chroniqueur Idriss Lingé, le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, nous parlera de la réforme fiscale en Afrique. Il sera avec nous dans quelques instants. Vous l'entendrez également. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Coémergence, l'invité.
Je vous le disais à l'instant, nous nous intéressons au rôle du Maroc dans l'adaptation de l'agriculture africaine. Quels sont les projets qui sont en cours ou les actions concrètes qui sont en train d'être développées dans le cadre de ce partenariat entre le Maroc et les partenaires du continent? Nous en parlons donc à l'occasion du 16e SIAM, le Salon international de l'agriculture au Maroc qui se clôture ce week-end à Meknès. Nous avons le plaisir de recevoir Raja Chafil, elle est la directrice générale du Centre 4C Maroc. Il s'agit du Centre de compétences changement climatique du Maroc. Madame Raja Chafil, merci d'être avec nous dans Coémergence.
Merci à vous de m'inviter.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Centre 4C Maroc?
Oui, alors le Centre 4C Maroc a été mis en place à l'aube de la COP22, qui, comme vous le savez, s'est tenue à Marrakech en 2016. Et l'idée, en fait, était de doter le Maroc et l'Afrique d'un centre d'expertise capable d'appuyer les politiques climat. Alors, le Centre 4C Maroc a plusieurs missions. D'une part, il œuvre pour le renforcement des compétences de tous les acteurs concernés sur le continent, à commencer par les collectivités territoriales, les administrations centrales, les ONG, le secteur privé, mais également les jeunes, et je vais y revenir par la suite. Alors, non seulement il fait du renforcement des compétences, mais aussi il produit des outils d'aide à la prise de décision. C'est ainsi, par exemple, que nous produisons plusieurs notes politiques ou policy briefs sur différents sujets d'actualité. Les dernières en date sont la policy brief sur les pertes et dommages en Afrique et une autre sur le renforcement des politiques climatiques en Afrique et la création d'emplois verts. Alors, à côté de cela, bien sûr, nous travaillons sur la capitalisation de l'information africaine et internationale en lien avec le changement climatique.
Excellent. Je pense que c'est une très belle entrée en matière parce que nous allons nous intéresser aux actions que mène le centre sur le continent. Justement, comment le centre met son expertise au service de l'Afrique? Parce qu'on se rappelle qu'en 2016, lorsque le Maroc avait donc accueilli et organisé la COP22, il y avait le sommet africain de l'action. Comment tout ceci se concrétise à travers les actions du Centre 4C Maroc?
Oui, effectivement, merci de le rappeler. En fait, on se rappelle tous que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors de la COP22, avait invité les chefs d'État africains à un sommet africain de l'action à Marrakech. Et lors de ce sommet africain, il y a eu à son initiative trois commissions climat africaines qui ont été formées, à savoir la Commission climat du bassin du Congo, qui comporte 17 pays, la Commission climat du Sahel, qui comporte également 17 pays, et la Commission climat des États insulaires d'Afrique, qui comporte une dizaine de pays. Alors, dès lors, dans le discours que Sa Majesté a donné à l'occasion de ce sommet africain de l'action, il a dit en substance que le Centre 4C Maroc était à la disposition de ces trois commissions climat pour les aider dans la concrétisation de leur stratégie et de politique climatique. C'est ainsi que depuis la COP22, nous travaillons avec ces trois commissions. Juste pour citer quelques exemples d'actions que nous menons, on verra d'une part le Centre 4C Maroc a appuyé la mise en place de deux fonds climat spécialisés en Afrique. Il a appuyé financièrement et techniquement la mise en place du fonds bleu du bassin du Congo. Il a appuyé également techniquement et financièrement la mise en place du fonds climat du Sahel. Il organise plusieurs sessions de formation au profit des pays membres de ces trois commissions. Et l'une des activités dont nous sommes très fiers, c'est la African Climate Academy. Alors, il faut savoir que depuis 4 ans, nous avons lancé une académie virtuelle du climat pour former les jeunes africaines et africains de plusieurs pays, 35 environ, pour les former en changement climatique. Alors, nous prenons des jeunes de moins de 35 ans avec un background de bac plus 5 dans toutes les disciplines. Il n'y a aucun choix entre les disciplines parce que tous les secteurs sont concernés par la lutte contre les changements climatiques et nous prenons plus de filles que de garçons. Nous prenons 55% de filles donc pour justement les aider à y voir plus clair dans cette problématique de lutte contre le changement climatique.
Donc ce sont des actions qu'on retrouve à travers le continent, aussi bien au niveau du Sahel que des pays du bassin du Congo et de cette académie virtuelle. Je pense que ce sont des actions intéressantes. Alors globalement, si on avait à constater l'impact réel de ces actions-là, comment elles se concrétisent sur le terrain?
Alors, sur le terrain, maintenant, donc, comme j'ai dit, il y a le fonds bleu du bassin du Congo qui est déjà installé au sein de la BDEAC. Il y a le fonds climat du Sahel qui est en train de choisir la banque dans laquelle il va être installé et qui va le gérer. Les pays membres donc, sont d'accord pour renflouer, bien sûr, avec les autres bailleurs de fonds, ces différents fonds climat, mais peut-être l'action phare que je peux citer, c'est qu'on est aujourd'hui à plus de 1500 jeunes africains et africaines qui sont certifiés, qui ont reçu un certificat de formation de haut niveau en changement climatique. Et nous sommes très heureux d'apprendre, par exemple, que ces jeunes, grâce à cette certification en changement climatique du Centre 4C Maroc, certains ont trouvé un meilleur emploi, d'autres ont trouvé leur premier job, d'autres encore nous écrivent pour nous dire qu'ils sont enrôlés dans un post-doc dans un pays étranger, et d'autres encore nous disent qu'ils ont réussi à avoir des bourses très conséquentes pour continuer à se former dans ce domaine des changements climatiques. Et ça nous rend bien sûr très fiers de contribuer même très modestement à l'empowerment des jeunes Africains dans ce domaine crucial pour l'Afrique qui est le changement climatique.
En tout cas, à vous entendre parler, on sent qu'il y a une prise de conscience de la part aussi bien des décideurs que de la jeunesse par rapport aux défis climatiques.
En effet, je peux dire et je peux témoigner que chaque fois qu'on lance les inscriptions dans l'African Climate Academy, on reçoit chaque année plus de 7000 demandes de jeunes Africaines et Africains qui veulent s'inscrire, qui insistent pour qu'on puisse les inscrire, alors que nous, notre plateforme virtuelle de formation ne peut comporter que 300 personnes par année. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que nous avons eu l'honneur et le bonheur de recevoir ces lauréats africains de la dernière promotion de 2024 à Ben Gurion, à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurion, qui est une université prestigieuse, reconnue mondialement. On a eu le plaisir de les recevoir pour des cours pendant une semaine. Et ils sont partis juste ce dimanche. Ils sont retournés très heureux dans leur pays. Ils ont eu beaucoup de conférences par des experts de renommée internationale. Et surtout, ils ont pu visiter des projets novateurs que le Royaume est en train de mener dans différents domaines en lien avec la lutte contre le changement climatique.
En tout cas, il faut dire que ce partenariat dans le domaine de l'agriculture et de la lutte contre le changement climatique est très important de la part, donc, et cela est même mentionné par les différentes organisations internationales, comme la FAO, qui a récemment tenu donc sa 33e conférence régionale en Afrique, ici, au Maroc. Alors justement, au SIAM, il a été beaucoup question de résilience donc au changement climatique. Vous avez vous-même, dans ce cadre, organisé un atelier sur l'agriculture conservatrice climato-résiliente donc au Maroc, les enjeux et les opportunités pour une meilleure adaptation. Globalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir?
Alors, on était effectivement très heureux d'organiser cet important atelier avec l'appui de l'INRA du Maroc et de ICARDA. Et en fait, l'idée était de diffuser l'information et de sensibiliser à l'égard de l'importance de l'agriculture conservatrice. Alors, en résumé, l'agriculture conservatrice, c'est une agriculture, en fait, on sème les graines sans travailler la terre. Et l'idée, en fait, c'est de laisser, d'une part, les débris organiques sur le sol pour enrichir le sol, mais également le fait qu'on ne retourne pas la terre à chaque fois pour semer permet de garder le peu d'humidité qu'il y a dans le sol. On sait tous que le Maroc a subi des sécheresses récurrentes, malheureusement, depuis plus d'une vingtaine d'années. Ces crises de l'eau se sont accentuées ces 6 dernières années. Et on a besoin, au Maroc, mais également dans les autres pays africains, on a besoin d'identifier des techniques culturales justement plus adaptées aux impacts néfastes des changements climatiques, parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire, bien entendu.
C'est donc à suivre. Merci à vous, Raja Chafil. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Centre 4C Maroc. Il s'agit du Centre de compétences changement climatique du Maroc. Vous nous parliez de la coopération avec les pays du continent, notamment à travers donc, les fonds sur le bassin du Congo, du Sahel et de cette Académie virtuelle du climat. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci.
Zoom Express.
Et nous avons le plaisir de retrouver notre chroniqueur Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'économie et la finance. Avec Idriss Lingé, nous allons parler de réforme fiscale en Afrique, sachant que les Nations Unies tiennent leur première session de travaux sur l'élaboration d'un cadre de coopération fiscale au niveau international. Et il sera notamment en question de ces réformes en Afrique et le Maroc qui y participe bien évidemment. Et nous en parlons avec Idriss Lingé donc. Bonjour à vous Idriss Lingé.
Bonjour Omar Baldé et bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio.
Alors Idriss Lingé, ma première question, qu'est-ce qui est prévu dans l'agenda de cette session donc, qui se tient aux Nations Unies et quels sont les points qui restent attendus pour être développés dans le cadre de ces réformes fiscales?
Oui, en effet, dans ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la célèbre résolution 78/230, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé en décembre 2023 que soient portées les discussions sur la coopération fiscale internationale au niveau des Nations Unies et non plus, comme c'était le cas, soit dans le cadre des accords fiscaux bilatéraux entre pays ou encore la tentative qui continue d'être mise en œuvre par l'Organisation pour la coopération et le développement économique afin de pouvoir organiser ces choses. Mais alors pourquoi c'est important Parce que la question fiscale a toujours été une question essentielle des économies. Les entreprises veulent toujours aller là où elles auront moins de contraintes fiscales, mais en même temps, les pays ont besoin de prélever l'impôt afin de financer les objectifs budgétaires et plus encore aujourd'hui les objectifs de développement. Donc, du coup, cette résolution a été adoptée. Une première réunion a eu lieu à la fin du mois de février, et c'est justement cette occasion que le Maroc a été élu parmi les membres du comité ad hoc. Il y en a pratiquement une vingtaine, et le Maroc fait partie des quatre représentants de l'Afrique. Et justement, à partir du 26 avril, on commence à discuter des questions un tout petit peu sérieuses sur ce projet de convention, de cadre international de coopération fiscale sous l'égide des Nations Unies.
Alors, Idriss Lindier, au-delà de cet agenda, on sait que la question, en tout cas, anime actuellement les débats sur le continent. Quelles sont les positions des uns et des autres par rapport donc à ces réformes fiscales, notamment en Afrique?
Alors, comme tu peux l'imaginer, Omar Baldé, les positions ne sont pas du tout alignées. Déjà, dès le moment où il a fallu voter de porter ces discussions au niveau des Nations Unies, on a senti une ligne de blocage forte de la plupart des pays de l'OCDE. Et heureusement, le mécanisme de décision était celui de la majorité. Et dans le groupe africain qui s'était allié avec l'ensemble des pays du sud global est parvenu à inverser la tendance et la résolution est passée. Mais on voit très bien que ces pays qui font blocage ont clairement indiqué qu'ils vont négocier, mais il faudrait que ça se passe selon leurs règles. Par exemple, ils voudraient que les décisions soient prises par consensus, alors que le principe à l'Assemblée générale, c'est celui de la majorité sur des questions essentielles comme la coopération fiscale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même de gros enjeux. Aujourd'hui, le système fiscal international crée un certain nombre de distorsions. Il est clair que l'ensemble des pays du monde est victime de ce qu'on appelle les flux financiers illicites motivés par l'impôt. Mais la réalité, c'est que les pays en développement souffrent le plus de cela. Bah parce que la ressource quitte carrément le continent alors que celui-ci a besoin d'avoir des devises, celui-ci a besoin d'avoir de l'argent dans des banques pour que les banques puissent faire des prêts à long terme. Tout cet argent est placé dans des juridictions fiscalement à faible taux d'imposition et ces juridictions sont parfois sous le contrôle de certains pays, voilà, de certains pays développés, comme c'est le cas des îles Vierges britanniques. Vous allez voir, la plupart des entreprises qui font de l'exploration minière ou même qui font dans l'investissement en Afrique subsaharienne, par exemple, sont logées dans ces types de juridictions. Et du coup, voilà, ils peuvent ne pas payer le bon impôt. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que les positions ne soient pas alignées. Mais en même temps, on note que même la volonté de consensus qu'a voulu avoir l'OCDE n'était pas forcément quelque chose qui arrangeait tout le monde. On a très bien vu qu'ils ont essayé d'adopter un cadre inclusif, mais qui n'est pas vraiment inclusif. Ils ont essayé de forcer sur l'adoption d'un accord multilatéral, mais des pays qui sont bien reconnus comme étant des pays qui impactent fortement les flux financiers illicites, les flux secrets, l'opacité financière, comme les États-Unis, ne sont pas forcément toujours partie prenante de tous les mécanismes. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé qu'il faut un cadre où tous les pays peuvent donner leur avis de manière égale, peuvent décider ensemble, et on pense que la légitimité appartient aux Nations Unies. On ne s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord, mais on s'attend à ce que ce qui sera décidé soit beaucoup plus démocratique, au lieu d'un processus qui est emmené par un petit groupe et qui enfin est proposé aux autres et on leur convainc d'accepter cela au moyen de plusieurs choses, le soft power, le hard power et tout ce qui va avec. Donc voilà, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais au moins on aura eu cette discussion et on espère finalement que cette discussion donnera l'opportunité à ceux qui veulent que les choses soient différentes de pouvoir exprimer leur point de vue.
Alors, Idriss Lindier, on sait que le Maroc fait partie des quatre pays africains présents dans le comité ad hoc qui mène ces premières discussions. Alors, Est-ce que il est possible aujourd'hui de savoir quelles sont les propositions du Maroc?
Le Maroc a spécifiquement fait formuler un groupe de cinq groupes de propositions, autant pour moi. Mais peut-être sur le plan purement fiscal, nous allons revenir sur le quatrième groupe de propositions. Le Maroc, effectivement, est d'accord qu'il faudrait qu'on ait des protocoles prioritaires sur, par exemple, la lutte contre les flux financiers illicites, ce dont je parlais précédemment. Elle pense aussi, le Maroc, le Royaume pense aussi qu'il faudrait qu'on ait une imposition sur les services transfrontaliers, et c'est absolument important. Le Maroc pense qu'il faudrait qu'on aborde aussi la question des incitations fiscales. Le Maroc est aussi favorable à la transparence fiscale, ce qui est bien parce que si en même temps elle veut qu'on mette un accent sur les flux financiers illicites, mais aussi la transparence fiscale, ce sont deux éléments qui vont de pair et qui sont très importants dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale ou alors le transfert des bénéfices. Et enfin, le Maroc pense qu'il faudrait qu'on adresse les questions inhérentes aux évolutions technologiques, notamment celles des crypto-actifs, les crypto-monnaies, la blockchain et l'intelligence artificielle, et de la manière dont ces choses-là peuvent impacter les administrations fiscales. Nous pensons que le Maroc a fait des propositions ambitieuses, mais maintenant, il faut très bien voir comment est-ce que cela se développe, parce que entre une proposition qui est donnée comme ça et la manière dont on la perçoit dans la practicalité, alors dans la pratique, il peut y avoir plusieurs éléments qui s'ajoutent. De toutes les façons, les débats seront ouverts et ce sera très intéressant de voir ce que le Maroc, mais aussi l'Égypte qui préside ces travaux, et des pays comme le Nigeria ou encore le pays comme le Kenya, le Ghana, qui représente aussi l'Afrique, vont pouvoir dire. Par contre, on reste aussi très attentif aux voix des pays d'Afrique francophone subsaharienne qui jusque-là sont très calmes, qui ne disent pas grand-chose, mais qui, on espère, peut-être vont s'aligner sur la volonté du groupe africain qui a vraiment exprimé des attentes ambitieuses et qui a la volonté de pousser très très loin.
Merci à vous, Idriss Linje, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Ce fut un plaisir de vous retrouver et certainement ce sera le cas dans nos prochaines émissions. Merci à vous, Idriss Linje.
Merci Omar Baldé de m'avoir accueilli, ainsi que l'agence Ecofin sur tes antennes. Je serai très content de vous retrouver pour un autre panorama sur l'Afrique. Au revoir.
Destination Éco.
Direction la Côte d'Ivoire où en cette année 2024, près de 370 concours administratifs seront organisés. Ils seront donc ouverts au niveau des ministères de la fonction publique. Une annonce faite par la première responsable de ce département. Nous allons donc à Abidjan pour faire le point sur ces concours administratifs qui sont importants dans le recrutement et dans la marche de l'État. Direction Abidjan avec notre correspondant Hippolyte Dié.
Valoriser les fonctionnaires et agents de l'État en crédibilisant les concours d'entrée à la fonction publique ainsi qu'à l'École nationale d'administration. Cela constitue l'un des défis majeurs de la ministre ivoirienne de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Anne-Désirée Oloto l'a exprimé au cours d'une importante rencontre portant sur l'organisation des concours administratifs en 2024. Une occasion pour elle de passer en revue les importantes réformes mises en place par son ministère pour le bon déroulement de ces concours. Anne-Désirée Oloto.
Pour ce qui concerne les concours de recrutement nouveaux, il s'agit de 146 concours qui seront ouverts, dont 11 concours directs, 90 concours de recrutement, 7 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques. Donc les 10 concours précédemment annoncés sont ouverts uniquement à ceux qui vivent sur le territoire national, et 10 autres concours de recrutement exceptionnels spécifiques ouverts à la diaspora. Enfin, 18 concours de recrutement des personnels de santé.
Les réformes mises en place par le ministère ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration revêtent plusieurs enjeux. Entre autres, permettre à l'administration de bénéficier davantage de ressources humaines de qualité et améliorer la question de l'employabilité dans le pays. La première responsable de ces départements ministériels a saisi l'opportunité pour exhorter les candidats à l'acharnement au travail avant de rappeler que les concours se déroulent dans une transparence totale.
Et surtout, ils doivent tourner le dos à tous les escrocs et vendeurs d'illusions qui font miroiter des possibilités d'admission au concours, alors qu'en réalité, ils sont à la périphérie, loin du centre de décision.
Les concours de la fonction publique seront officiellement lancés dans le mois d'août prochain et les compositions vont prendre fin en septembre. Quant au concours d'entrée à l'ENA, le processus va débuter en juillet et ce jusqu'au mois de septembre. À Abidjan, Hippolyte Dié pour Midi 1.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Midi 1 à Abidjan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programme sur Midi 1 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.